Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Chanéa, qui est professeure à l'université. Alors, c'est Paris 6 ou Paris 7?
Paris 6.
Paris 6, Jussieu, mais qui a de multiples rattachements, labo au Collège de France. Et quand j'ai vu la liste, je me suis dit, c'est vraiment très long. Donc, si vous voulez préciser, allez-y très volontiers. Et qui va
Oui.
donc aborder un aspect qui est l'aspect chimie que l'on a à peine évoqué depuis ce matin. Donc, c'est bien, là, on aura fait un tour complet, puisqu'on a bien dit.
Mais on va finir par la fabrication des
Voilà,
matériaux, en
qu'on
fait.
était à la conjonction de la physique, de la chimie et de la biologie. Donc, vous l'abordez par un volet. Alors, chimie douce. En plus, ça va atténuer quelques commentaires désagréables qui ont été faits par rapport à la
Finalement, il y
chimie.
avait moins de problèmes avec la chimie dure.
Voilà. En tout cas,
La chimie du solide.
merci de nous avoir rejoints et de conclure cette journée.
Alors bonsoir, donc ouais, je me présente, je suis Corinne Chénac, je suis effectivement professeure à l'université Pierre et Marie Curie, donc ça c'est l'antenne. Je travaille au laboratoire chimie de la matière condensée de Paris, qui était donc il y a encore un an dans cette université, et donc tous les problèmes de toxicité, on sait ce que c'est puisqu'on vit dans l'amiante depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc on vient d'être déménagé, on a réintégré donc une entité qui est le Collège de France, pendant qu'on désamiante et qu'on réaménage nos locaux. Alors pourquoi on est au Collège de France? En fait, le fondateur du laboratoire, c'est un laboratoire qui a été fondé dans les années 70, a été fondé donc par un chimiste qui est issu de la chimie du solide, de la chimie minérale, et qui s'appelle donc Jacques Livage, et qui a eu en 2002 donc une chaire de chimie au Collège de France. Et cette chaire de chimie lui a été attribuée donc pour tous les travaux qu'il a pu faire dans la chimie dite douce par opposition à la chimie dure, et qui est effectivement une nouvelle chimie qui a été mise en place dans les années 70 et qui aura pour conséquence de former directement donc des nanoparticules et des nanomatériaux. Alors, par ailleurs, je suis aussi impliquée dans le réseau CNano Île-de-France, où j'anime l'axe nanochimie. Et dans le réseau CNano Île-de-France, on est particulièrement donc attentif aux problèmes de toxicité. On a un axe un petit peu interaxe, on va dire, qui est donc nanosciences et sociétés, d'où on a effectivement un consortium avec des gens des sciences humaines, des juristes et des scientifiques. Et donc on essaie effectivement d'amorcer un petit peu la discussion entre tout le monde, parce que c'est pas évident de se comprendre déjà entre chimistes, biologistes, physiciens. Quand on y mêle aussi les sciences humaines et sciences sociales, ça devient encore de plus en plus compliqué. Et en fait, on s'aperçoit que notre tâche, elle est vraiment compliquée si on veut vraiment intégrer ces problèmes de toxicité. Alors déjà, je vais vous raconter un petit peu pourquoi la chimie douce et puis comment on obtient ces nanoparticules. Alors tout vient autour de l'histoire de la silice, et donc ici donc plus particulièrement du verre, donc qui remonte effectivement à la préhistoire, avec l'utilisation donc de ce verre. C'est un composé de silice amorphe, il est composé au moins à 70% de silice. Sa couleur noire ici vient d'impuretés, c'est de l'oxyde de manganèse ou de l'oxyde de fer, et sa particularité, donc c'est une roche volcanique qui est extrêmement dure, et lorsque on la casse, vous voyez, ça va faire des bords extrêmement tranchants et qui va tout de suite être utilisé donc par l'homme pour les propriétés effectivement de cette pierre. Donc on va en fabriquer des outils et aussi donc des pointes de flèches ici pour se défendre. La silice ensuite donc a été fabriquée par l'homme, et si on en croit les écrits ici de Pline, on remonte à l'époque des marchands phéniciens qui sur les bords du fleuve donc faisaient chauffer la marmite à l'heure du déjeuner, sur ici donc des pierres qu'on trouvait au bord du fleuve et qui sont des natrons. Alors ces pierres, ces natrons, ce sont des carbonates de sodium, et ils avaient pu voir que donc à force de faire chauffer la marmite, de ces pierres coulait ici donc un liquide visqueux qui au refroidissement avait l'aspect du verre. Donc ce serait effectivement le premier verre fabriqué par l'homme. Petit à petit, finalement, le verre a évolué. On a ici découvert le feu, maîtriser le feu à des températures suffisamment hautes pour pouvoir manipuler le fer, c'est le début du verre soufflé. Et ensuite, donc ici, dans une industrie actuelle, manufacture de vitrage, où on est capable de faire donc des feuilles de verre par des procédés de laminage, et ceci en flux continu. On pourrait raconter une histoire tout autre de la silice et du verre, qui est celle finalement de Mère Nature. Donc c'est une histoire de silice qui est fabriquée par des organismes marins. Et donc ici, on a un certain nombre d'organismes marins qui produisent du verre. Il y a deux grandes familles, donc les diatomées, qui sont des phytoplanctons, et les radiolaires, qui sont plutôt donc des petites espèces vivantes, des zooplanctons. Alors, la particularité de ces espèces, c'est de fabriquer donc de la silice avec, comme vous pouvez le voir, des architectures qui sont magnifiques. Donc, à partir d'atomes de silicium qui se trouvent dans l'eau de mer, donc ces espèces unicellulaires que sont les diatomées arrivent à construire donc ces coques hein, qui leur servent de squelette. Donc, on appelle ça l'exosquelette parce que l'organisme est à l'intérieur de cette coque et qui a effectivement donc une structuration d'une beauté remarquable. On va trouver à peu près le même type de structuration avec les radiolaires. Donc on a ici des réseaux de silice qu'on a du mal à comprendre comment les cellules arrivent à faire finalement ces espèces. Alors si on les regarde un petit peu plus près, ces diatomées, en fait c'est une boîte à camembert. Hein. Donc si on regarde, il y a une partie en bas qui est plus petite et puis un chapeau par-dessus qui vient s'y mettre. Alors la boîte à camembert, nous, elle est plutôt pas poreuse parce que les odeurs seraient un petit peu gênantes. Ici, à l'inverse, elle est extrêmement poreuse puisqu'elle va permettre les échanges avec l'extérieur. Et donc l'entité vivante va se trouver ici dans cette boîte. Alors, comment on va fabriquer finalement cette boîte ? Et bien, on va la fabriquer à partir de ce qu'on peut trouver dans l'eau de mer. Alors, dans l'eau de mer, la silice va être sous cette forme. C'est l'acide silicique, un atome de silicium qui va être ici donc coordonné à des fonctions OH qui résultent de la décomposition de l'eau. Si on regarde dans l'eau de mer, on va avoir des concentrations extrêmement faibles hein, donc de ces entités. Donc, on a 70 micromoles par litre, c'est extrêmement faible. Et on s'aperçoit que pour commencer à fabriquer un matériau, donc à partir de cette espèce moléculaire, hein, ce sont des petites molécules qui ne sont pas assemblées, qui sont des monomères. Pour commencer à les assembler, il faut quand même augmenter la concentration et atteindre des concentrations beaucoup plus hautes, 2 millimolaires par exemple. Alors comment finalement cette entité biologique peut accumuler cette silice ? Alors on a décrit un petit peu le procédé, donc on sait que ça part de l'eau de mer, donc il y a ces atomes de silicium qui sont dans l'eau de mer qui vont rentrer dans la cellule. Et puis on va distinguer ici donc des petits compartiments où ça va réussir à s'accumuler. Donc on va faire des réservoirs de silicium, donc on va le concentrer à l'intérieur. Et à un moment donné, lorsque la cellule va se diviser, elle va se diviser ici donc par exocytose, donc on va recréer finalement à l'intérieur de la cellule un deuxième couvercle, et ça va se séparer ensuite en deux. Et de façon un petit peu magique, effectivement, ce réservoir de silice, à un moment donné, ça va se déclencher, ça va venir se redissoudre et recondenser à ce niveau-là pour aller reformer un couvercle. Alors, comment c'est possible et quel est le moteur, finalement, de toute cette organisation ? Mais ça va être la présence simultanée de molécules organiques. Alors, on en a identifié trois types, donc qui sont des polyamines, des salicidine, donc c'est une grosse molécule un petit peu compliquée, et puis finalement ici, c'est l'association des deux. Et donc ces molécules organiques, c'est elles qui vont avoir le rôle d'aller fixer le silicium pour former des particules. Donc on fixe du silicium, on l'accumule, on va former des particules. Ensuite, une autre protéine va assembler ces particules, parce qu'elle va jouer sur les interactions électrostatiques. Alors souvent, les charges minérales dans l'eau, elles sont chargées, ou positivement ou négativement. Donc on va pouvoir créer des interactions par ces forces. Donc là, c'est ce qui va se passer. Donc on va avoir des particules qui vont se former, elles vont être en interaction avec les unes avec les autres. On va former des émulsions, puisque ces molécules ici organiques vont participer aussi à la formation du matériau à travers des émulsions. Et puis on s'aperçoit donc petit à petit qu'effectivement, la présence de ces entités va être capable ici d'aller construire à partir du monomère un matériau qui est ici de la silice. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore organisé, on reverra ça un petit peu plus tard. Donc finalement, notre diatomée, c'est une véritable usine chimique. C'est un petit laboratoire ambulant où se fait tout un tas de réactions. Alors la chimie que nous, on a développée, elle résulte un petit peu effectivement de la chimie du silicium et de toutes ces observations. Donc les procédés Sol-Gel sont apparus dans les années 70 et ils décrivent essentiellement donc une chimie du silicium. On prend le même monomère que celui qu'on avait tout à l'heure dans l'eau. Il va s'associer à un autre monomère ici donc par une réaction chimique. On va les former donc un pont. On prend un atome de silicium, on va le lier à un autre atome de silicium donc ici par une réaction de condensation. Alors, c'est les mêmes réactions de condensation qu'on peut trouver en chimie organique, sauf qu'ici, effectivement, c'est de la condensation, de la polymérisation inorganique. Et lorsque l'on fabrique effectivement ces ponts, ben, à un moment donné, on va avoir une espèce avec une taille critique. La première espèce qu'on va identifier ici, c'est les solutions colloïdales. On appelait ça effectivement, nous, solutions colloïdales depuis plusieurs dizaines d'années. Pourquoi colloïdal ? Parce qu'effectivement, ici, ça diffuse un petit peu la lumière. On a une taille critique, on voit que c'est légèrement opalescent. On sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ces solutions, elles sont stables. Donc, ces particules vont rester stables dans l'eau. Et si on laisse ces solutions évoluer, petit à petit, on va voir que les particules vont grossir. On va avoir ce qu'on appelle donc ici un sol. Donc on a des tailles bien définies de particules. Donc ici, on a plutôt des petits clusters qui vont se former petit peu par petit peu. Et puis là, on arrive à avoir des particules nanométriques dont on peut parfaitement déterminer la taille et qui sont stables. Lorsqu'on laisse encore évoluer ce sol, on peut avoir des phénomènes de gélification. Alors ce n'est plus un grossissement de la taille des particules, c'est une agrégation des particules. Ces particules toutes petites, finalement, vont s'assembler les unes avec les autres pour former, comme on peut le voir ici, donc des chaînes. Et c'est à partir du moment où on a un taux de réticulation suffisant à travers ces chaînes que l'on va former un état digel. En gros, c'est la gelée de coin, hein, de nos grands-mères. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à partir effectivement donc, de ces suspensions, donc le sol, on voit ici un gel. Ce gel, on est capable de le sécher pour aller former un aérogel. C'est-à-dire qu'on va enlever tout le solvant qui est piégé donc, dans ce réseau de polymères inorganiques. On va obtenir un matériau ici donc, extrêmement poreux avec des trous en volume qui représentent quasiment la totalité de la matière. Donc en fait, on a une petite charpente minérale avec beaucoup de vide dedans et qui donc en volume représente ce qu'on appelle ici donc les aérogels. Alors ça, c'est des techniques de séchage un petit peu particuliers. Si on part du sol et qu'on ne va pas jusqu'à l'état gel, mais on va ici donc précipiter ce sol. On a des particules qui sont stables en suspension, donc on a un sol colloïdal. On peut le perturber parce qu'on sait effectivement faire précipiter les espèces pour récupérer ici une poudre, poudre de nanoparticules. Alors, l'intérêt des procédés sol-gel, c'est aussi, donc, à partir de cet état sol, de pouvoir mettre en forme, finalement, un matériau minéral de différents types de façons. Donc, ce sol, qui est constitué de nanoparticules, va pouvoir être utilisé pour faire, par exemple, des films. On a souvent besoin de faire un revêtement sur un support. Alors ça peut être sur de l'acier pour le protéger vis-à-vis de l'oxydation. Ça peut être sur des vitrages, soit pour rendre un vitrage hydrophobe ou électrochrome. Alors pour ce faire, il suffit donc de plonger le substrat finalement dans la solution et lorsqu'on va le ressortir, on va avoir un film très très mince qui est composé donc effectivement d'une couche dense de ces nanoparticules et qui va donc modifier le support. D'autres techniques de dépôt, donc au lieu de faire un trempage finalement du substrat, on peut mettre le substrat ici donc sur une tête tournante, on dépose le liquide, on fait tourner extrêmement rapidement jusqu'à étaler finalement toutes ces particules et obtenir un film mince et dense. Ici, c'est des méthodes d'induction, donc c'est un rouleau qui tourne au contact de la solution et qui va venir donc être appliqué ici à la surface du substrat. Alors, ce sont des techniques qui sont utilisées assez couramment dans l'industrie, que ce soit dans une industrie relativement courante de fabrication de vitrage, comme sur des technologies beaucoup plus fines, et qui est par exemple le revêtement de miroirs pour des lasers, le laser femtoseconde par exemple. Donc ce sont des choses qui sont énormément développées au CEA. Et puis on peut aussi donc faire un dépôt par... ici, donc une électrolyse, on va appliquer un courant et puis on va venir déposer des particules qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ont une charge sur une des électrodes. Il suffit de choisir effectivement les bonnes charges. On peut aussi faire de la lithographie. Donc ça, c'est vrai qu'au niveau des nanotechnologies, de plus en plus, sont des techniques que l'on voit émerger de façon assez importante. Donc c'est finalement reprendre le système de nos imprimantes avec des solutions de nanoparticules et puis donc de structurer finalement un matériau à partir de cette technique. Donc on remplit une seringue, on fait un goutte à goutte et puis on va déposer donc avec pas avec la main parce que c'est pas possible, mais à l'aide justement des microscopes, on va pouvoir ici donc gérer le dépôt de gouttes pour aller former ici donc des piliers ou des réseaux à partir de ces techniques d'impression, de nano-impression. Un autre domaine également, c'est le domaine des aérosols. Donc là, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est important. Donc on part d'une solution, on va pulvériser finalement la solution. Donc on atomise la solution ici, on va en faire un gaz qui va passer dans une étuve ici et qui va sortir ici donc des nanoparticules. Donc ça, effectivement, c'est tout l'aspect gazeux. Donc on a pu voir dans les différents processus, il y a tout ce qui se fait en solution. Donc où là, on dit que les particules, finalement, elles sont relativement stables. À moins de boire la solution, le risque vis-à-vis du manipulateur est quand même relativement peu risqué. Mais à partir du moment où on va commencer à toucher à des techniques ici d'aérosol, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on maîtrise vraiment, finalement, toutes ces particules que l'on va volatiliser et qui vont se retrouver sous forme d'un plasma et d'un gaz ? Autre possibilité de produire aussi des nanomatériaux, c'est tout ce qui va être fibre, donc formation d'une fibre. Donc là, on est plutôt à partir soit des sols, soit des gels. Donc on peut utiliser finalement une espèce de passoire où on va mettre notre gel, on va pousser dessus et puis finalement, on va réussir à faire des fils. Donc ici, c'est un exemple de fibres de silice qui ont été fabriquées pour remplacer les fibres d'amiante, notamment dans les tissus. Pour tout ce qui est protection thermique. Donc on s'aperçoit donc ici qu'effectivement, donc à travers ce procédé, il y a une application industrielle qui est imminente puisqu'on peut fabriquer tout un tas de types de matériaux. Alors qu'est-ce qu'on va trouver un petit peu comme produits manufacturés qui sont issus de ces procédés sol-gel au jour d'aujourd'hui? Ben, c'est effectivement donc beaucoup de revêtements, hein, donc des films, qui sont soit pour apporter des propriétés optiques, donc ici donc des verres réfléchissants, électroniques, on peut avoir des verres électrochromes, donc on choisit effectivement d'avoir un verre qui est soit transparent, soit qui laisse passer la lumière, soit qui ne le laisse pas passer. Des couches aussi protectrices, on a parlé tout à l'heure de la corrosion, notamment des métaux. Donc on obtient des fibres, donc on commence à voir apparaître un petit peu partout sur le marché, effectivement, ces maniques en fibres relativement douces, blanches, qui sont des fibres de silice issues de procédés sol-gel. Et puis donc il y a toute l'industrie des poudres, et notamment beaucoup en catalyse, et dans le domaine des membranes. Donc on a ici une coupe de membrane, donc on a une multicouche de nanoparticules qui permettent de filtrer l'eau, par exemple. Donc on a parlé tout à l'heure des aérogels. Donc ça, c'est pour vous illustrer donc la beauté du matériau. C'est un matériau qui a l'air un petit peu d'être un hologramme. Donc il y a tellement peu de matière pour un volume tellement grand qu'on a vraiment l'impression que c'est un hologramme. Donc on a 79% de vide dans ce matériau. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il va donc avoir ici, on a une fleur au-dessus d'un bec benzène protégée donc par cet aérogel. Et on voit que c'est vraiment un excellent isolant thermique et qui, malgré tout, a des propriétés mécaniques qui ne sont pas si négligeables que ça, puisqu'ici, on a une brique qui fait à peu près 2,5 kg donc sur ce petit bout d'aérogel qui, lui, ne pèse que 2 grammes. Donc, on est capable, comme ça, d'avoir des matériaux donc, à base de silice qui vont résulter effectivement de l'association à l'échelle nanométrique d'atomes de silicium, donc pour passer donc d'un monomère à des particules. Et vous voyez ici, donc, on est capable de régler la taille des particules. Alors, ça c'était pour la silice. Maintenant, on peut effectivement généraliser ce concept à d'autres types de cations métalliques, notamment pour obtenir des oxydes. Alors, on peut obtenir des oxydes nanométriques à partir des sels métalliques. Donc, on va avoir un sel métallique que l'on met dans l'eau. Et ce sel métallique dans l'eau, à un moment donné, va générer des fonctions OH. C'est les mêmes fonctions OH qu'on avait tout à l'heure avec le silicium. Et à partir de cette fonction OH, qui est une fonction réactive, on va pouvoir initier ici des réactions de condensation. Donc, on retrouve ici, hein, finalement, deux atomes cations métalliques ou silicium qui vont s'associer, et c'est le début de la formation du solide. Alors en fonction finalement du nombre de OH qu'on va avoir autour du cation métallique, la structure du matériau que l'on va obtenir à la fin va être différente. Donc ici on a pris l'exemple, alors c'est un cation dimétallique, donc il a une charge de plus, et donc il va former ici une espèce neutre avec deux ligands OH, et à partir donc de cette entité moléculaire, on voit que l'association va se faire donc ici par une arête, c'est-à-dire qu'on a deux liaisons qui vont se former ici dans le plan de la molécule, et que finalement, on n'a qu'une seule possibilité d'assembler ces entités moléculaires, et qui va donner, au final, des plans. Donc c'est un matériau qui est composé de plans. Donc ces plans ici, en général, sont espacés de quelques angströms. Maintenant, si on prend un matériau avec une autre fonctionnalité, donc ici, on va prendre un cation qui a cette fois une charge 4+. Donc lui, il va avoir 4 OH pour former une espèce neutre. Dans ces cas-là, finalement, l'association des cations entre eux ne va pas conduire à la formation de plans, mais à la formation d'une espèce tridimensionnelle. Pourquoi ? Parce qu'ici, on va avoir des groupements OH qui vont permettre d'associer non plus simplement dans un feuillet, mais aussi ici dans une troisième dimension. Donc c'est généralement ce qu'on appelle l'approche bottom-up en chimie minérale. Donc lorsque vous faites ça avec différents types de cations, que ce soit du fer, du titane, de l'aluminium, eh bien on arrive à fabriquer des nanoparticules. Alors voici un exemple de nanoparticules que l'on a synthétisées. On va les décrire les unes après les autres. Donc on retrouve ici donc, une particule en haute résolution en microscopie électronique. Donc on retrouve ici hein, les plans de grande densité atomique. Donc ça, c'est une particule d'oxyde de fer, la baguémite, qui est généralement donc utilisée comme agent de contraste en imagerie médicale. Donc c'est une particule qui, de par son magnétisme intrinsèque, va perturber le champ local et va modifier la relaxation du proton. Et c'est le proton que vous regardez ici en imagerie médicale. Donc on va pouvoir améliorer le contraste entre des protons qui se trouvent très mobiles en fait, dans certains liquides du corps humain, contrairement à des protons qui sont dans des masses beaucoup plus graisseuses et qui sont nettement moins mobiles. On peut également donc contrôler la taille. Donc, ici, ce sont des particules de silice hein, qui sont fabriquées par un procédé, le procédé Stöber, qui date de 1960 à peu près, où on sait régler parfaitement, donc à l'échelle nanométrique, ces particules, et on voit qu'elles sont extrêmement monodisperses. On voit que, donc là, on avait des particules qui étaient sphériques, et ça résulte, donc ici pour la magnétique, de la structure. Maintenant, si je change de matériau et que je change de structure, je change aussi de morphologie. Je vais avoir donc ici des plaquettes, des particules qui ressemblent plutôt à des grains de riz, ou ici donc des bâtonnets. Et ce qui est important, lorsqu'on considère effectivement les nanotechnologies, et notamment les nanoparticules et leurs risques, il n'y a pas que l'effet de taille qui est à prendre en compte, il y a aussi l'effet de morphologie. On sait qu'à ces morphologies, finalement, va correspondre des propriétés différentes. Certaines particules qui vont se trouver ici sous forme de bâtonnets n'auront pas les mêmes propriétés que le même matériau sous forme d'une sphère. Donc il y a des choses qui vont être extrêmement liées à la morphologie. Et on sait également que la pénétration cellulaire d'une particule ronde ne va pas être la même que celle d'une particule allongée. Donc il y a vraiment ce facteur à prendre en compte, un effet morphologique. Nous, on arrive à le contrôler, on sait à peu près finalement quels sont les paramètres clés qui permettent d'orienter une structure plutôt dans un sens plutôt que dans l'autre. Mais on sait aussi que finalement, la propriété de la particule va aussi dépendre de sa forme. Donc ici, c'est pour vous illustrer un exemple où finalement, on n'a pas une particule simple, mais on a une particule composite, c'est-à-dire qu'elle va avoir un cœur qui aura une composition chimique donnée et une surface qui aura une autre composition chimique. C'est le même élément, en fait, c'est un oxyde de magnésium, de manganèse, pardon, au cœur et en surface, mais ce n'est pas la même structure. Et donc, on a un cœur dense ici, et puis on a finalement une couronne un petit peu alvéolée. Donc, c'est pareil ici, donc pour un matériau qui est un oxyde de manganèse, il y aura aussi une importance à considérer qu'on a un matériau qui a vraiment une morphologie qui est tout à fait particulière. Alors, on a parlé tout à l'heure de TiO2, donc on fabrique des TiO2 nanométriques. Donc ici, c'est la structure anatase de TiO2. On sait que TiO2 anatase a des propriétés de photocatalyse qui sont utilisées et développé et commercialisé notamment par Saint-Gobain. Donc c'est un verre bioclean, c'est un verre qu'on n'a pas besoin de nettoyer parce qu'effectivement il va s'auto-nettoyer tout seul. Et pourquoi il s'auto-nettoie ? Ben parce qu'en fait sur ce verre, on a fait un dépôt par spin coating d'une couche d'anatase. Donc on a des particules d'anatase qui sont collées sur cette surface de verre et c'est cette anatase sous irradiation et notamment UV. Donc, elle va utiliser les UV du soleil pour dégrader la matière organique. Et lorsque une pollution arrive au contact de ce verre, elle va être dégradée, donc dégradée pour donner des éléments simples tels que CO2 et H2O, qui vont être éliminés les jours où il pleut, si bien qu'effectivement, au bout de quelques temps, vous voyez que cette vitre reste toujours propre, contrairement à une vitre qui n'a pas été ici modifiée. Donc, ce qui veut dire que cette vitre, en fait, en surface, vous avez une couche de nanoparticules. Et quand il pleut, ça enlève aussi la matière organique, mais est-ce que ça enlève que la matière organique ? On a du TiO2, TiO2, même composition chimique, mais cette fois rutile, c'est-à-dire pas la même structure. C'est l'organisation des atomes dans l'espace qui est différente. Et la morphologie est différente. Ici, donc, on a des bâtonnets. Et ces bâtonnets de rutile sont très blancs. On en a parlé tout à l'heure, c'est utilisé comme pigment blanc, notamment dans les peintures, les crèmes solaires et le papier. Les crèmes solaires, c'est parce que ça arrête les UV. Effectivement, ça absorbe les UV pour dégrader la matière organique. Donc, c'est un bon absorbant des UV. Si on le mettait tout seul sur la peau, on enlèverait effectivement les UV, mais on donne pas cher de la peau. Donc finalement, dans les crèmes solaires, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ces bâtonnets de rutile vont être recouverts d'un autre oxyde. C'est de l'alumine, en fait. Donc finalement, ces particules qui sont dans les crèmes solaires, c'est une multicouche. C'est pas un composé tout seul, c'est déjà une multicouche. C'est beaucoup plus complexe. Ici, ce sont des particules d'oxyde de fer qui sont des particules de goethite. Alors la goethite, cet oxyde de fer, c'est la couleur ocre que l'on trouve dans les peintures rupestres et qui est notamment aussi un pigment qui est utilisé dans les peintures pour faire des couleurs très très chaudes, notamment pour les revêtements extérieurs de maison. Alors ces particules qui sont des particules allongées, on a dit tout à l'heure qu'effectivement elles ont des propriétés particulières. Et notamment, donc si on prend une assemblée de ces particules, qu'on les concentre un petit peu, c'est-à-dire qu'on les rapproche un petit peu les unes des autres, à un moment donné, elles vont se voir, elles vont plus s'ignorer et elles vont s'organiser. Donc si on étudie finalement l'organisation des particules en fonction de leur concentration, on voit que ça suit une loi linéaire. À un moment donné, en fait, toutes les particules sont orientées dans le même sens. Et c'est ce qui vous donne donc ici de la biréfringence. En fait, c'est l'équivalent des affichages à cristaux liquides qui généralement sont des molécules organiques, sauf qu'ici, donc, c'est fabriqué avec des particules inorganiques. L'avantage, c'est que c'est plus résistant, effectivement, aux variations thermiques. Donc c'est vrai qu'on a toujours aussi une propriété qui est associée ici donc à la forme et puis des domaines d'application qui peuvent être très intéressants. Lorsque l'on fait effectivement de la chimie sol-gel, on peut être aussi intéressé à réaliser donc des matériaux qui luminescent. On a beaucoup parlé de propriétés magnétiques des matériaux, de propriétés optiques, mais pas forcément dans le sens où ce sont des entités qui émettent. Et notamment, on sait que certaines structures de silice vont pouvoir absorber finalement des éléments extérieurs qu'on appelle des dopants et qu'on va pouvoir insérer au niveau de la structure. Et ce sont ces impuretés qui souvent donnent la propriété aux matériaux. Et quand on choisit bien finalement le degré de dopage, donc le degré d'impureté qu'on va mettre dans le matériau, on va avoir un phénomène tout à fait extraordinaire, c'est de la luminescence persistante. Donc quand on excite le matériau sous UV, qu'on coupe les UV, vous placez dans le noir pour mieux voir, vous allez voir donc une émission de couleur qui va perdurer pendant plusieurs heures. Vous connaissez un peu le phénomène sous le terme de phosphorescence. Alors le mécanisme ici n'est pas exactement le même, mais le résultat est un petit peu équivalent. Par les procédés sol-gel, ces matériaux, on est capable de les faire à l'échelle nanométrique. Et c'est un travail qui nous avait été demandé par un laboratoire de pharmacie. Il nous disait, mais si vous arrivez à faire ces particules qui luminescent pendant longtemps, nous, ça nous serait très utile pour faire de l'imagerie. Parce que lorsqu'on fait de l'imagerie avec les composés luminescents actuels, on est obligé tout le temps de les irradier pour pouvoir voir. Et finalement, lorsqu'on irradie, on excite aussi les tissus, et puis on voit moins bien, et donc du coup, c'est pas très intéressant. Et donc, on a réalisé effectivement ce travail, et on a pu montrer effectivement ici qu'on était capable, à partir de ces matériaux, de faire de l'imagerie. Donc ici, c'est sur une souris. Et on a pu mettre en évidence que ce qui est important, effectivement, c'est le matériau, mais il n'y a pas que le matériau. Il y a tout ce qu'on va lui mettre autour. À partir du moment où on va injecter une particule, notamment dans la circulation sanguine, le sang, c'est un milieu qui est extrêmement complexe, et notre particule, finalement, elle n'est pas très très stable, dans le sens où elle va tout de suite être considérée comme un corps étranger et que l'organisme va tout de suite réagir et va lui dire « Ouh là 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 là, ça c'est pas bon pour la santé, ça va se bloquer quelque part. Hein. » Donc ici, ça s'est bloqué dans les poumons parce qu'on avait une mauvaise circulation des particules, donc tout s'agrège et se bloque rapidement dans les poumons. Maintenant, si je modifie ma particule, je dis « Mais attends, moi je sais que tu vas reconnaître ma particule, donc maintenant je vais te faire croire que finalement ce n'est pas une particule. » Donc je vais lui mettre en surface, ici, tiens, je vais changer les charges. Déjà, tu ne vas plus voir la même charge, tu vas te comporter autrement. Puis ici, donc, je vais te mettre un gros polymère. Donc comme ça, tu peux peut-être même croire que c'est un globule. Et finalement, quand on fait ça, on s'aperçoit qu'effectivement, la circulation des particules est augmentée. Donc ici, ça se bloquait dans le foie, là, ça circule un petit peu, et après, ça, dans les poumons, pardon, et ici, ça circule un petit peu plus, mais c'est très rapidement bloqué dans le foie. Et maintenant, si ben, je lui mets une bonne couche de polymère, finalement, ça circule tout le temps. Donc quand on va regarder effectivement l'aspect toxicité de la nanoparticule, il y a tout ce qu'on va trouver en surface. Donc finalement, le produit manufacturé qui n'est pas une simple particule, mais quelque chose de beaucoup plus complexe, nécessite aussi de prendre cette complexité en compte. Alors indépendamment donc, des matériaux que je vous ai présentés à partir de sels métalliques, il y a toute une chimie qui s'est développée à partir de composés métallo-organiques. Donc on retrouve ici notre cation, mais cette fois au lieu d'avoir des OH, on a des groupements OR. Et donc on va pouvoir développer à partir de ça une chimie un peu différente. Les réactions chimiques de base sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que ce groupement OR est hydrolysable et on va tout de suite retrouver notre fonction OH. On va pouvoir faire les mêmes réactions de condensation. Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est que ces composés métallo-organiques, je vais pouvoir les utiliser en présence aussi de composés organiques pour aller former ce qu'on appelle donc les matériaux hybrides. Donc on ne va pas avoir simplement une particule, ni simplement de la matière minérale assemblée. On va essayer d'organiser à la fois un matériau à l'échelle nanométrique qui va combiner la partie une composante minérale et une composante organique. Donc on retrouve ça très bien dans l'histoire. Hein. Il suffit de regarder les peintures Maya. Donc ici, c'est un pigment bleu qui est extrêmement stable. On s'est toujours posé la question, mais pourquoi finalement il y a une telle stabilité vis-à-vis de toutes les agressions finalement auxquelles elles ont été exposées? Donc en fait, ce pigment bleu, il n'est pas simplement déposé sur le substrat, il a été inclus dans une matrice minérale haute, donc c'est un pigment organique qui a été protégé donc par une coque minérale et qui a permis effectivement de consolider et de le protéger vis-à-vis de toutes les dégradations. Et c'est là-dessus finalement que se sont basés les matériaux hybrides. C'est associer de la matière minérale organique à l'échelle nanométrique. Alors après, on peut avoir effectivement à peu près tous les composés que l'on veut. Ça part ici donc d'une matrice organique dans laquelle on va disperser des nanoparticules inorganiques. À l'inverse, ici, on peut avoir une matrice minérale dans laquelle on a des clusters qui sont organiques ou une interpénétration finalement des deux réseaux. Et la finalité de fabriquer de tels matériaux, c'est quoi? C'est d'avoir un matériau qui aura des propriétés qui sont plus importantes que l'association, enfin que la somme des propriétés. Donc on veut avoir une synergie des propriétés. On veut essayer de développer finalement quelque chose de nouveau en associant ces deux entités. Alors, dans les composés matériaux hybrides, comme on a vu que c'était un petit peu complexe et qu'il y a une grande possibilité de faire un petit peu comme le veut le chercheur des matériaux, un petit peu de toutes sortes, on a quand même essayé de faire une petite classification. Donc on a classifié un et deux, des matériaux hybrides selon la nature de l'interaction qu'il y a à avoir entre la partie organique et la partie minérale. Et on a défini finalement des matériaux dits de classe 1, interaction faible, lorsque finalement on avait un lien qui était relativement faible entre les deux. Ici donc des matériaux de type 2, qui au contraire vont avoir un lien extrêmement fort entre la partie organique et la partie minérale. Donc ici, on est plutôt dans le piégeage, donc on va piéger soit l'organique, soit le minéral dans l'une ou l'autre des deux matrices. Et ici, on est vraiment dans l'aspect greffage, donc on va greffer une entité sur une autre pour aller former un matériau hybride. Alors quelques exemples, et puis pourquoi, à quoi ça peut servir. Donc ici, si on prend un matériau hybride dit de classe 1, où on a bloqué un composant organique, donc une molécule organique, qui est coloré dans un réseau de silice. Donc on peut faire à partir donc de ces suspensions ici donc des revêtements colorés. La coloration est due uniquement donc, à la présence de ce composé organique. C'est fait par dépôt en surface. Donc, ce qui veut dire qu'on a ici une bouteille de verre qui est simplement colorée en surface et qui résout pas mal de problèmes de recyclage, puisqu'effectivement, quand on a du verre coloré dans la masse, c'est compliqué parce qu'on ne va pas mélanger le verre blanc, le verre brun, le verre vert. Ici, puisque c'est un composé organique, lorsque l'on va fondre le verre, finalement, on va détruire cette entité organique et on récupère un verre recyclé qui sera blanc. Donc on a la possibilité aussi de colorer donc de la silice dans la masse. On sait tous qu'effectivement, colorer du verre, ce n'est pas simple. Hein, donc il y a certaines personnes qui sont restées enfermées sur l'île de Murano pendant des années et des années pour ne pas vendre le secret de la coloration du verre. Donc on peut maintenant le faire chez soi avec un peu de silice et juste un peu de colorant, même alimentaire. Ici, c'est un autre exemple de composé, donc cette fois dit de classe 2. Donc on va effectivement donc prendre un alkoxyde de titane que l'on va greffer ici, donc un monomère qui est l'HEMA, donc qui va donner donc un précurseur de titane fonctionnalisé donc par l'HEMA. L'HEMA ici va avoir double rôle, donc il est à la fois réactif lorsqu'il est greffé au titane et on aura un excès d'HEMA, donc monomère, que l'on va pouvoir polymériser. Si on mélange cet alkoxyde de titane fonctionnalisé, donc un excès de monomère et qu'on polymérise le tout sous UV, on va obtenir donc un polymère qui peut être moulé. Donc ici on a la capacité effectivement de faire une espèce de cube en verre qui va contenir à l'intérieur, donc des espèces nanométriques de titane. Une fois qu'on aura donc hydrolysé ce composé titane, on va obtenir une nanoparticule de titane qui est inclue dans le polymère. Donc on obtient donc ce bloc ici, donc elle est légèrement jaunâtre, mais ça c'est un petit peu la couleur du polymère. Et donc vous allez me dire, mais pourquoi voilà, donc on a un matériau qui contient du titane, ça amène quoi? Le titane 4 ici donc est relativement incolore à l'échelle nanométrique. Lorsque vous allez l'irradier sous UV, vous allez donc créer une réaction donc de réduction et vous allez obtenir du titane 3. Titane 3 qui, lui, est violet. Donc on va ici, en focalisant avec un laser, créer, donc on va marquer, on va faire un point. Donc si on fait ça de façon précise, ben on peut faire de la lithographie. Ensuite est apparu, c'est un peu historique, donc on a eu la chimie des alkoxydes, les matériaux hybrides, et puis très rapidement est apparue une autre chimie. On s'était dit, donc on sait faire, on sait organiser la matière. Maintenant, est-ce qu'on est capable de faire de la matière un petit peu comme nos diatomées, trouées et parfaitement trouées? Donc ici, c'est avec les découvertes de Mobile, on a vu que minéraliser en présence deux molécules amphiphiles permettaient effectivement d'amener une porosité, et une porosité contrôlée. Donc on a ici donc ce qu'on appelle un tensioactif, surfactant en anglais, on utilise un peu les deux mots, c'est venu passer un peu dans le langage courant. Donc c'est une molécule amphiphile qui va avoir une tête polaire qui est hydrophile, une queue qui va être hydrophobe. Et lorsqu'on les met dans l'eau, bah, elles vont s'assembler, parce qu'effectivement donc, la matière organique, ici n'aimant pas bien l'eau, elle va se mettre ensemble, de façon à minimiser l'énergie finalement de cette entité. On va avoir une auto-association qui va permettre d'abaisser l'énergie totale du système. Et on va avoir donc ici une couche extérieure qui correspond à la tête, et puis à l'intérieur, les queues de la molécule amphiphile. Et ces micelles vont avoir une forme qui dépend essentiellement donc de l'entité amphiphile que vous prenez. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement donc, ces molécules s'assemblent. Donc, c'est toute la chimie de la matière molle, donc la chimie qui avait été développée donc, par Pierre-Gilles de Gennes, et qui ont donc établi des diagrammes de phase. Donc, si on est faiblement concentré, ça va, les molécules vont être à peu près à l'aise. Si on commence à concentrer, on a un peu trop de matière organique, elles vont commencer à s'associer sous forme de micelles. Si on continue à augmenter finalement la concentration de ces espèces, on va avoir apparaître effectivement plusieurs types de structures. Donc ici, on va avoir des tubes qui vont s'associer pour former des réseaux. Et si on minéralise en présence de ces particules, on va obtenir donc la formation des micelles, la partie minérale qui se met autour des micelles, et au bout des réactions de condensation qu'on a montrées tout à l'heure, on va avoir donc un matériau minéral qui est ici en jaune, avec à l'intérieur encapsulé les micelles. Si on chauffe, ces composés organiques donc, vont s'éliminer et on va obtenir des trous. On obtient un matériau minéral avec des trous qui fait des très jolies photos en microscopie électronique où on voit une régularité parfaite finalement de ces espèces. Et c'est ce qui se passe avec nos diatomées en fait. Les protéines au sein des diatomées vont avoir le même rôle et vont associer la silice jusqu'à obtenir effectivement des organisations. Un petit problème d'échelle, donc ici ce sont des grosses entités, ce sont des grosses protéines, donc les trous sont beaucoup plus gros. Lorsque l'on travaille donc ici avec nos petits tensioactifs, on va avoir des trous qui sont plus petits à l'échelle de quelques nanomètres, voire quelques dizaines de nanomètres. Ici on est plutôt de l'ordre du micron. Alors ces associations par assemblage finalement de molécules amphiphiles, on va pouvoir non seulement en faire des blocs, mais on peut aussi en faire des films. Et on peut retrouver les aérosols dont on parlait tout à l'heure. Alors une des applications de ces aérosols, c'est de se dire que finalement, ça peut faire des très bons vecteurs multifonctionnels pour tout ce qui est application biomédicale.
C'est surtout pour votre taxi. Ah. Si vous voulez ne pas louper votre train.
Oui. À moins le quart, d'accord. Bon, on va faire vite alors. Donc ici, on peut imaginer effectivement que ces sphères de silice, on va pouvoir les utiliser comme espèce de plateforme pour des applications biomédicales. Des trous dans lesquels on va pouvoir y mettre des médicaments qui vont être délivrés tout doucement dans l'organisme. Des particules magnétiques ici qui vont pouvoir faire de l'imagerie, mais pas que de l'imagerie. On sait que ces particules magnétiques, lorsqu'elles sont soumises à un champ magnétique alternatif, vont aussi chauffer. On va pouvoir avoir un échauffement local. Alors à quoi ça sert ? Sous échauffement local, les cellules qui ne sont pas saines vont mourir beaucoup plus rapidement que les cellules saines. Elles sont magnétiques, donc on peut les emmener là où il y a une tumeur. On va pouvoir délivrer des médicaments et on va pouvoir imager en même temps. Donc c'est vraiment les concepts de matériaux tels qu'on les a au jour d'aujourd'hui et tels qu'on essaie de les développer. Alors pour terminer ma présentation, je voulais dire aussi donc, que nous on est impliqués effectivement dans tout ce qui est risque et toxicité des nanoparticules, parce qu'en tant que scientifique, on a aussi un regard par rapport à ça. Et donc depuis un certain temps maintenant, on essaie de mener des études, notamment pour tester la toxicité de nos nanoparticules. C'est pas simple. C'est pas simple, pourquoi ? Parce qu'on disait tout à l'heure qu'effectivement il nous faut des résultats, mais des résultats qui soient fiables. Donc il faut déjà mettre en œuvre des manips qui sont fiables. Et quand vous avez d'un côté des particules, de l'autre côté des bactéries, se dire faire la manip pour que finalement on voit et on ne voit que l'effet des nanoparticules sur une bactérie, c'est pas aussi simple. Déjà, quel solvant on va prendre ? Si on prend un milieu nutritif pour les bactéries, on voit que toutes les nanoparticules vont s'agréger et de toute façon c'est un amas au fond et là à ce moment-là on n'a plus d'informations. Hein. Si on met les bactéries dans l'eau, il ne faut pas les mettre trop longtemps parce qu'à un moment donné, elles vont souffrir, effectivement, elles vont se vider par pression osmotique. Donc, mettre en œuvre ces manips, c'est vraiment pas simple, ça prend du temps. Et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de fabriquer une nanoparticule que d'étudier finalement toutes ces propriétés, que ce soit des propriétés de surface, hein, ici, vis-à-vis notamment de la rétention d'espèces toxiques telles que l'arsenic, par exemple, que de voir aussi, finalement, quand on met une particule en présence d'une bactérie, ce qui s'y passe. Donc, on a essayé de mettre en place donc des groupements de recherche pluridisciplinaires, donc à la fois ici, à travers l'axe CNANO-Île-de-France, des groupements de recherche internationaux entre la France et les États-Unis. La France a pour en charge, avec l'OCDE, de regarder un petit peu les oxydes de titane. On fait ça donc en collaboration avec une équipe américaine qui a un autre regard, qui regarde d'autres types de matériaux, mais on peut échanger en tout cas nos procédés et nos façons de voir les choses. Voilà. Et donc pour information, je voulais dire que alors c'est nanosciences et pas les nanotechnologies. Donc le tome 4, j'ai vu qu'il y avait les trois tomes déjà là-bas. Donc le prochain tome sur les nanosciences sera effectivement sur un condensé de tous les résultats qu'on a pu finalement recueillir. Alors c'est au niveau essentiellement de l'hexagone sur tout ce qui a été fait au jour d'aujourd'hui sur la toxicité environnementale et humaine. Voilà, donc normalement ça devrait sortir en septembre. Enfin, le livre est écrit, il est dans les presses. Voilà, donc je voulais surtout remercier donc Jacques Livage qui a contribué donc à cette présentation. Lionel Nicole pour l'aspect esthétisme, il a découvert le nouveau PowerPoint, il est très heureux. Il nous modifie tous nos transparents. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir invité et merci pour votre attention.
Merci à vous. Bon, nous avons peu de temps parce que vous avez des contraintes et Augustin aussi, je crois que vous partez ensemble. Je voudrais vous dire, bon, d'abord, vous remercier pour cet exposé qui montre qu'il y a une véritable explosion de ce domaine de la chimie avec la constitution de plein de matériaux. Et effectivement, en toile de fond, il faut qu'on se pose vraiment la question de la rémanence de ces matériaux. Ce n'est même pas la toxicité immédiate, mais notamment ces matériaux qui vont s'accumuler, qui vont être utilisés. Tout à l'heure, on parlait de toxicité sur les sites de production, mais là, dans ce cas-là, je crois qu'on va se poser vraiment la question de leur dispersion dans la nature, de leur stabilité, etc. Et je suppose que vous êtes impliqué aussi dans ce type d'études. Le micro. Pour l'enregistrement.
Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de mesure. Hein. La personne qui parlait tout à l'heure dans son laboratoire, on lui donne des nanoparticules, on lui demande de travailler avec. Il y a plein de laboratoires de physique où les gens travaillent avec des nanotubes de carbone, sans masque, sans rien. Donc effectivement, peut-être qu'il n'y a pas de législation, mais nous, on va essayer, en tout cas au niveau de ces nanos, de dire qu'il y a peut-être un équipement minimum à avoir, même si on n'est pas sûr finalement de ce qu'il faudrait avoir. On ne peut pas donner de certitude aux gens, mais par mesure de précaution, voilà. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire.
Merci. Est-ce que vous êtes encore en état de poser une question ou vous êtes épuisé par cette journée très dense? Bon. Mais écoutez, merci vraiment à tout le monde, à tous ceux qui sont venus spécialement aujourd'hui, qui nous ont fait ces présentations. Oui, on a eu effectivement des étudiants de Limoges, donc des présentations qui venaient de beaucoup d'endroits avec plein de domaines différents. Ça n'est qu'une étape. Je répète qu'il y aura il y en aura d'autres. Le 19 mai, sur des applications, évidemment, avec tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce seront des coups de projecteur, hein, bien évidemment. Et je me suis aventuré à vouloir faire l'exposé introductif et je l'avais appelé « Inventaire à la Prévert ». Thème qu'a repris Louis Laurent ce matin. Ce sera difficile de faire un condensé, mais je le ferai. Simplement, je crois que l'histoire est en route. On a, en toile de fond, on a posé tous les problèmes. Je crois qu'il va falloir continuer. Et je rappelle qu'on a aussi, en fin d'année, une journée de réflexion complète, où là, les scientifiques se tairont complètement. Et tous les aspects sociétaux seront évoqués et toutes les bonnes volontés, tous ceux qui voudront discuter seront les bienvenus, quelles que soient leurs opinions. Merci beaucoup et à la prochaine.